Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, Tal Scheller et moi, sur la chaîne du Grand Changement. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tous les cas, ce soir, l'idée est de pouvoir partager avec vous, l'idée est de pouvoir partager ensemble. Alors, je suis ravie de t'accueillir, Tal. Ce n'est pas la première fois et je suis vraiment ravie que tu aies accepté l'invitation. Alors, avant qu'on se connecte avec l'ensemble de la communauté, je sais bien que tu es, voilà, on ne te présente plus, mais néanmoins, je tenais quand même à présenter certaines choses, au-delà du fait que tu sois bien sûr médecin, naturopathe, homéopathe, acupuncteur, ostéopathe, chaman et psychothérapeute. Tu es un expert de la médecine alternative, pionnier de la santé, penseur avant-gardiste, et on expliquera pourquoi pour les personnes peut-être qui ne le savent pas encore, conférencier, écrivain bien évidemment, et tu as à travers ça, eh bien, publié de nombreux ouvrages, mais également fait énormément de webinaires et partagé énormément de choses, de ce que tu sais. Donc, merci à toi, Tal, d'être avec nous ce soir. J'aimerais que tu puisses bien sûr ajouter des choses parce que c'est quelque chose de très, je dirais, listé, mais j'aimerais que tu puisses de ton côté, eh bien, donner quelques mots de ta part.
Tout à fait, c'est un grand plaisir. N'est-ce pas? Moi, ma vision des choses, c'est d'arrêter d'opposer des choses qui sont complémentaires. La main gauche et la main droite, elles ne sont pas là pour se taper dessus, elles sont là pour travailler ensemble. Et alors, la vision que j'ai, c'est que tout est complémentaire. Et je le montre avec ce petit schéma qui est amusant, c'est on a d'un côté la médecine officielle, ensuite on a les médecines douces, toutes les médecines différentes, et on a les moyens de santé. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on va vers la médecine officielle, on va vers la dépendance envers autrui. Puisque la médecine officielle, on vous dit ce que vous devez faire. Alors que quand on va dans l'autre sens, on va vers la dépendance. Et c'est ça, moi, mon axe de travail avec la médecine holistique, c'est d'aller dans une notion où on ne rejette pas la médecine classique, qui peut sauver des vies dans les cas d'urgence, n'en doutons pas. Mais cette médecine classique, elle est catastrophique pour les maladies chroniques. Pourquoi? Parce qu'en cas d'urgence, vous avez besoin d'une intervention. Alors, on vous sauve la vie. Mais dans les maladies chroniques, qui sont toutes des maladies d'intoxication, vous donnez des médicaments chimiques, ça n'a pas de sens. Réfléchissez. Vous êtes intoxiqué par 10, 20, 30 ans d'alimentation, de stress et tout. Vous êtes malade. Oh, j'ai des rhumatismes, j'ai le cancer. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des médicaments chimiques qui vont augmenter l'empoisonnement. C'est complètement illogique. Ça ne tient pas la route. Alors, c'est là qu'il faut tenir compte que toutes les médecines douces, quelles qu'elles soient, ont une immense qualité, c'est qu'elles respectent le principe hippocratique du primum non nocere. Ça veut dire d'abord ne pas nuire. Ah, et ça, c'est une vision merveilleuse. Parce que toute la médecine officielle a l'idée, oui, on vous donne quelque chose, oui, d'accord, il y a des effets secondaires, oui, d'accord, il y en a un sur 10 qui va en mourir, mais enfin, peut-être pas vous. Non, mais oh, c'est quand même une médecine dangereuse. Les vaccins et la médecine chimique tuent des millions de gens parce que c'est des médecines qui coûtent cher. Il y a d'énormes effets secondaires et on vous dit, bah, écoutez, c'est comme la roulette russe, espérez que la balle ne sera pas pour vous. Mais quand vous lisez les effets secondaires des médicaments, rien que le paracétamol que vous achetez tous les jours pour que vous avez mal à la tête, mais quand vous lisez la liste des effets secondaires, mais il y a de quoi frémir. Et alors, la médecine officielle vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire le bénéfice-risque parce qu'on ne peut pas avoir de médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. C'est la vision. Alors, dans les médecines douces, on part d'un autre principe, c'est qu'on va donner que des choses qui vont soutenir votre système immunitaire. Que ce soit en acupuncture, en homéopathie, en aromathérapie, bref, tout ça, ça va respecter l'idée de d'abord ne pas nuire, mais d'aider le corps à faire son travail. Donc, c'est une vision diamétralement différente. Au lieu de dire la santé va venir de l'extérieur, d'un médicament ou d'un vaccin qui va tout faire pour vous et vous n'avez rien à changer, on va vous dire non. Nous allons, par des moyens naturels, aider votre corps à faire son travail, mais vous devez changer vos habitudes. Parce que comme le disait Hippocrate il y a plus de 2000 ans, toutes les maladies, et ça c'est une loi, viennent de nos habitudes de vie. Donc si, en fait la maladie, c'est passionnant de comprendre ça, c'est pas une catastrophe, c'est pas « Oh mon Dieu, j'ai attrapé le Covid parce que j'ai embrassé grand-maman », tout ça c'est d'un ridicule absolu. La réalité, c'est que quand vous vivez bien, agréablement avec votre corps. Alors ça, c'est la médecine holistique, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Vous tenez compte de ces quatre corps et vous vous occupez bien de chacun. Il n'y a pas de raison d'être malade. Mais quand vous créez un déséquilibre, qui peut être que vous mangez trop, vous ne dormez pas assez, vous ne faites pas assez d'exercice, ça c'est le côté physique, ça peut être émotionnellement, vous gardez trop d'émotions comme la peur qui vous ronge à l'intérieur, vous ne savez pas les lâcher. Mentalement, c'est que vous avez des tas de croyances limitées qui vous empêchent d'ouvrir votre cerveau droit et de vous relier à l'amour et à la vie universelle. Alors, quand vous vivez mal, la maladie survient. Et la maladie est toujours un effort du corps pour se guérir. Donc, c'est toujours merveilleux. Quand on tombe malade, on ne va pas dire « quelle horreur », on va dire « merveille, mon corps, quelle intelligence il a. Ah, j'ai trop mangé pendant les fêtes, je fais une petite grippe en janvier, c'est que mon corps utilise les virus et les bactéries pour se dépolluer. Il est intelligent. Notre corps est d'une intelligence colossale. Il est des dizaines, des centaines de milliers de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Il fait des choses que personne ne sait faire sur cette planète. Des milliards de réactions chimiques à la seconde, des millions de cellules qui naissent et qui meurent dans votre corps, tout ça, c'est colossal, d'une intelligence incroyable. Et croire que le corps, quand on est malade, c'est simplement parce que c'est un idiot qui ne sait pas faire son travail, c'est vraiment une vue très limitée des choses. Alors que la base, c'est quand le corps est malade, quand le corps a une maladie, c'est dire « Ah bon, pourquoi tu fais ça, mon corps ?» Et le corps va essayer de se dépolluer grâce à la maladie. Et il va nous donner en même temps un message pour nous dire « il faudrait peut-être que tu changes un peu ton mode de vie ». Donc, la maladie n'est pas un ennemi et les virus et les bactéries non plus. La croyance que les virus et les bactéries sont des ennemis qui vont nous agresser, ça, depuis Pasteur, on croit ça. « Ah, mon Dieu, j'ai attrapé un virus. Ah, il y a une bactérie. » Tout ça, c'est malheureusement pas de la science. C'est devenu une pseudo-science parce que les marchands, c'est ça qui est passionnant de société, c'est que les marchands, ce qu'on appelle « Big Pharma », c'est ceux qui gagnent de l'argent en vendant des vaccins, des médicaments, ils ont une opportunité fantastique. Donc, ils vous ont persuadé, « Ah, vous êtes malade ? Oh, ce n'est pas votre faute. On va vous donner un médicament ou un vaccin qui va vous amener des solutions venant de l'extérieur. » Et ça, c'est une gigantesque illusion de notre époque. C'est la croyance que la santé va venir de quelque chose que j'achète. Alors, pour le marchand, c'est une opération merveilleuse. Et ça passe à ça, regardez comment c'est aujourd'hui. Déjà, un enfant, on lui file 11 vaccins obligatoires qui vont l'empoisonner à vie. Parce que les vaccins, c'est des poisons. Et quand il a reçu ça, en plus, on va l'amener chez McDo, on va l'intoxiquer avec des aliments complètement dénaturés. Et quand il va tomber malade, on va dire, « Ah, ben, il y a un médicament pour vous. » Et on va lui donner le médicament toute sa vie. C'est un monde délirant. Un monde de folie totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes responsables de notre vie et de notre santé. Ah, et quand on comprend ça, alors il faut apprendre à gérer sa santé. Moi, mon slogan depuis 50 ans, c'est dire la santé, ça s'apprend. J'ai appris à marcher, à parler, et bien, apprenez à gérer votre santé. Une joie, c'est que j'ai appris ça à beaucoup de gens. Et quand les gens s'occupent non plus de lutter contre la maladie et les symptômes, mais d'apprendre à gérer leur santé, bien, ils vont de mieux en mieux. Et ça donne des gens qui, grâce à une démarche personnelle, arrivent à se guérir. C'est-à-dire, c'est ça qui est génial. Mais pour ça, n'est-ce pas, il faut sortir de l'hypnose collective. Je vais faire un livre là-dessus.
Oui.
De l'hypnose collective. Je l'ai appelé la fin des grands mensonges. C'est qu'il faut sortir de toutes ces croyances qu'on vous a infligées, où on vous a dit voilà la vérité, et qui reposent sur rien, sur du vent. Parce que regardez ce qui se passe, c'est passionnant. L'enfant, jusqu'à 4 ans, il obéit qu'à son corps de lumière. Il est relié par son cerveau droit à son corps de lumière qui lui dit tout le temps, joue, amuse-toi, tu es sur une planète école. Et l'enfant, il joue toute la journée. Et il est heureux. Et le corps de lumière lui dit, si tu es en colère, sors ta colère, vas-y, allez, crie, pleure, hurle. Si tu as peur, ah, laisse sortir. Donc l'enfant, émotionnellement, il ne peut pas stocker. Il n'a pas la capacité de retenir. Il n'a ni le schéma de garder tout dedans, ni d'aller frapper quelqu'un. Quand il a une émotion, allez hop, il la danse, il crie, il pleure, et elle sort par son corps. Le drame, c'est que l'éducation nous apporte à partir de 4 ans, quand le cerveau gauche s'est activé, qu'est-ce que nos parents nous disent? Ils nous disent « Ah non, 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 ça, tu arrêtes d'obéir à ton corps de lumière, tu obéis à papa et maman. » Et on entre dans le stress. « Il faut que je fasse plaisir à papa, maman. Ah oui, il ne faut pas que je pleure, il ne faut pas que je crie, il ne faut pas que je sois en colère. » Et j'entre dans le contrôle. Et ça, c'est notre drame. Et la pire émotion, et ça j'en parle parce que c'est vraiment l'émotion numéro 1, c'est la peur. Cette peur, regardez aujourd'hui comment ça marche, c'est que la peur, c'est l'émotion cultivée soigneusement par les médias. Tous les jours, on vous donne des informations anxiogènes. Ah, 2000 morts par-ci, 4000 contaminés. On vous donne des chiffres qui ne veulent strictement rien dire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pas de recul, le Covid n'a pas tué plus que les grippes des années d'avant. Ceux qui vous disent « Oh, le Covid, c'est tout faux !» C'est des chiffres trafiqués. Mais c'est, on vous bombarde de chiffres comme ça, 3000 morts par là, 2000 morts là. Et quand vous êtes là dans cette peur, on vous dit la seule solution, c'est le vaccin. Vaccinez-vous. Mmh. Ce qu'on vous oublie de vous dire, c'est que dans ce vaccin, il y a des centaines de produits chimiques toxiques. Il y a de l'aluminium ou du mercure à des doses incroyables, plus toute une soupe de ce que les marchands mettent dedans. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Parce que depuis 1986, les marchands de vaccins ne disent plus ce qu'ils mettent dans leur vaccin.
C'est ça.
Une impunité totale. Ils peuvent mettre n'importe quel poison là-dedans, on ne peut plus les attaquer. Ah, c'est fantastique. Ils ont l'impunité. Ah, c'est pas de chance. Si vous tombez malade, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens vaccinés ont des effets graves. Et quand ils disent, les marchands vaccinés, non, ce n'est pas notre faute. Adressez-vous au gouvernement. Et le gouvernement, après peut-être des années de procès, va vous donner une petite indemnité. Mais on est devenu délirant parce qu'on a oublié, si vous voulez, que la solution ne viendra jamais du dehors, elle vient du dedans. Alors pour la peur, justement, j'en parle parce que c'est un point important, c'est que font la plupart des gens ? Nous, on le voit dans nos stages. Parce que moi, j'enseigne depuis 30 ans avec mon épouse Joanne, qui vient de Madagascar, qui est une femme merveilleuse. Non seulement une merveilleuse épouse, mais aussi une très grande chamane. Et on enseigne aussi notre fils Gwenel Clapp, qui est un personnage extraordinaire parce qu'il a 35 ans, mais il a une dynamique. Moi, je suis épaté par lui parce qu'il est jeune. Il a la moitié de mon âge, mais il enseigne avec une puissance sur la conscience. Enfin, il est fantastique. Je suis ébloui. Et quand on enseigne les trois, nous sommes vraiment à égalité de niveau. Il n'y en a pas un qui est... Alors, on a des spécialités un peu différentes, mais on est vraiment ensemble pour apporter aux gens des outils. Et l'outil, la première chose qu'on enseigne aux gens, c'est comment lâcher la peur. Parce qu'on le voit dans nos stages, quand les gens arrivent, quand on demande « qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur ?» Alors, c'est un exercice qu'on dit aux gens, vous avez 3 ans et vous avez peur, qu'est-ce que vous faites ? Pratiquement tous les Occidentaux, pour la peur, ils font... Donc, c'est la peur qui rentre. Mais quand est-ce qu'elle sort ? Eh bien, elle ne sort pas. C'est le drame des Occidentaux. Ils accumulent de la peur. Et quand ils ont toute cette peur qu'ils accumulent au fil des mois, des années, et cette peur finit par bloquer leur système immunitaire. Et à ce moment-là, un cancer, quand on a serré la peur à l'intérieur, une tumeur vient dire tu as renoncé à vivre avec ton corps. Mmh. Alors que les peuples du Sud, qui savent lâcher la peur, eh ben, ils ne font pas ces maladies-là. Il y a beaucoup moins de cancers, voire pas du tout, dans les peuples du Sud. Parce que pour la peur, ils crient « Ah !» et elles sortent. Alors, l'exercice de base, et je vais tout de suite vous le donner parce que ce n'est pas un secret, il est génial cet exercice, mais je peux vous dire qu'il change la vie des gens. Si les gens l'oublient, il est sur mon site. Des exercices très simples, mais qui consistent à dire « Qu'est-ce que je fais quand j'ai peur ?» ou que je suis en anxiété. Au lieu de dire « Oui, j'ai peur, mais vous comprenez, c'est normal parce que j'ai eu une enfant difficile, parce que j'étais battu comme... » Bah, au lieu de rester dans le mental, il faut que la peur, elle sorte. Et pour qu'elle sorte, voilà comment on va faire. On va inspirer la peur. Je me remplis de peur. Puis quand je suis plein, au lieu de me mettre à penser, je vais tirer la langue, parce que tirer la langue, c'est le premier geste de la libération émotionnelle. Et je vais faire un son et je vais vider ma peur en disant « Je laisse mon corps vibrer. Je peux être debout assis, comme ça. Je laisse sortir ma peur. Ce que je veux faire comme expérience, et vous allez le faire avec moi, c'est que vous allez voir que quand vous arrivez à vide d'air, il y a un moment extraordinaire qui est, moi, ce que j'appelle le point du lâcher-prise. C'est que tout d'un coup, c'est comme si vous dites « Je renonce à cette vie d'effort, de compétition, depuis que j'ai 4 ans, il faut se donner de la peine, que tu seras content après. » Enfin, je vis dans un monde constamment d'effort. Et là, je lâche. Je lâche ce monde de la peur. Et tout d'un coup, vous allez découvrir que quand vous arrivez à vide d'air, votre corps, quand il va reprendre de l'air, vous allez tout d'un coup entrer dans le « Ah !» Et moi, j'appelle le bonheur dans l'instant présent. Alors, faisons place à l'expérience, faisons-le tous ensemble.
Oui. On y va ? Bien sûr, on y va. Allez, c'est parti.
Maintenant, respirez profondément. Et là, vous pouvez sentir le fait d'être présent dans l'instant présent. Ah, je suis vivant. C'est extraordinaire. Et là, vous laissez un sourire sur vos lèvres, ce sourire d'apprécier d'être en vie. Le sourire de Bouddha. Je suis en vie. Wow. Et ce sourire, vous l'envoyez à vos cellules. Et quand vous faites ça, ben vous sentez que vos cellules, vos organes répondent en vous disant « bien-être ». Parce que dès que vous avez lâché la peur, vous vous sentez mieux Ce n'est peut-être pas parfait tout de suite, mais vous êtes mieux qu'une minute avant. C'est extraordinaire. Donc, c'est un moyen très simple de ne pas garder cette peur, cette anxiété à l'intérieur en disant « Oui, mais ce sera peut-être mieux l'année prochaine » ou « Quand il y aura un nouveau président » ou quelque chose d'extérieur. Non, j'ai peur, je suis anxieux, je lâche. Maintenant je respire.
Alors, tu disais « lâcher la peur » et… Là, le titre de la Vibrant, là, on a intitulé « Se délivrer » parce qu'il y a un sentiment aussi d'être parfois prisonnier de cette peur, au-delà de la volonté de vouloir s'en détacher. Parfois, on est prisonnier, prisonnière de cela. Et comment se libérer alors ?
Cette prison qui nous enferme dans la peur, c'est la prison de l'intellect. D'accord. C'est notre intellect qui est la source de tous nos problèmes. Mmh. Parce que si mon intellect me dit des choses, il me dit, oui, c'est normal que tu aies peur parce que la vie est dure, c'est normal de souffrir parce qu'on ne peut pas faire autrement. La vie, c'est un effort constant. Voilà, ça, c'est tout ce que l'éducation nous a appris. Mais quand je lâche ma peur, tout d'un coup, naturellement, comme j'ai lâché mon émotion, mon cerveau gauche se calme, mon cerveau droit s'ouvre et tout d'un coup, je peux m'ouvrir au plan spirituel. Dans une spiritualité qui n'est pas des croyances, ce n'est pas croire que Dieu s'appelle Allah ou Vishnu, on s'en fiche de ça. Mais c'est tout d'un coup, quand j'ai lâché la peur, je peux m'ouvrir au fait de « Ah, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi. » C'est-à-dire que mon cerveau droit s'ouvre et tout d'un coup, ma conscience grandit. Et là, ce qui est passionnant à voir, c'est que tout le monde a un cerveau droit. Donc, tout le monde peut, c'est ce qu'on appelle nous le chamanisme, c'est pouvoir s'ouvrir à explorer d'autres réalités que le monde de la matière. Parce que dès qu'on a lâché la peur, mais c'est pareil pour la colère, si je lâche ma colère, on la laisse en sortir, une fois que j'ai lâché mes émotions, naturellement, je me détends, mon cerveau s'ouvre, et c'est là qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle des voyages intérieurs. Mmh. Alors, passons tout de suite à la pratique, vous voyez comment ça marche. Je prends mon tambour, parce que le tambour, ça aide à voyager. On va le refaire une fois, on va renouveau une fois lâcher la peur, pour le faire encore plus consciemment. Vous êtes prêts? On inspire, on y va. Respirez profondément, souriez, fermez les yeux un instant, sentez votre corps présent et puis soutenu par le son du tambour, laissez votre conscience maintenant voyager. Avec votre conscience, vous montez à travers l'espace. Vous vous sentez toujours plus libre, toujours plus léger. Vous montez encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez dans un merveilleux paysage de nature. C'est ce qu'on appelle le jardin du cœur. Et dans ce paysage de nature, vous êtes comme un enfant qui peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il n'y a personne ici qui vous interdit quoi que ce soit. Vous pouvez inventer tous les jeux. Vous pouvez faire tout ce qui est bon pour vous. Vous pouvez courir, sauter, jouer. Bref, vous êtes libre. Dans ce jardin du cœur, vous êtes totalement libre. Le créateur. Alors vous créez ce qui vous plaît. Et puis dans ce jardin du cœur, les animaux sont vos amis. Alors choisissez juste maintenant un animal avec lequel vous avez envie de jouer. Et jouez avec lui. Parce que jouer avec un animal, qu'est-ce que c'est bon? Parce que l'animal, il vous entraîne dans sa vie à lui, il est mobile, il est vivant. Il vit chaque instant. Il n'est jamais immobilisé en pensant que la vie est dure, qu'il se sent coupable, ou qu'il a des regrets, ou qu'il a... Non, non, il est vivant. S'il a peur, il crie un bon coup. S'il est en colère, il vit ses émotions comme un enfant de 3 ans dans l'animal sauvage. Et il vous apprend à vivre juste, instant par instant, guidé par votre instinct. Tout le temps en train d'apprécier la vie. Que vous soyez éléphant, oiseau, dauphin, mère de terre, la vie de l'animal, elle est passionnante. Parce qu'il n'est jamais immobilisé par l'intellect. Il vit. Et puis bien sûr, un jour il meurt, mais ce n'est pas un problème pour lui. Il sait que la mort, c'est que la mort du corps physique. Et que quand on meurt, on retourne dans les mondes de lumière. Et puis après avoir joué avec cet animal, faites le contact avec un être de lumière. Laissez apparaître devant vous un être lumineux. Ça peut être un ange, un guide, ça peut être un lutin, une fée, un être non matériel. Laissez-le apparaître devant vous et sentez son amour, sa joie, sa bonté, sa bienveillance. Et cet être lumineux, voyez le cadeau qu'il a pour vous. Il vous offre quelque chose qui va vous aider, vous soutenir sur votre chemin. Remerciez-le et voyez-le partir en sachant que ces êtres de lumière qui vous entourent ne vous abandonnent jamais et que chaque fois que vous avez besoin de leur aide, ils viennent, ils sont là. Ils sont toujours là, en fait. Et sentez comme c'est bon d'être aimé. Et puis, dernière étape, faites le contact avec votre corps de lumière. Imaginez qu'à la vitesse de la pensée, vous montez vers ce corps de lumière que vous pouvez voir comme une étoile, comme un soleil ou comme une boule de lumière. Et vous fusionnez avec lui. Là, là, vous êtes à la source de votre être. Et là, vous êtes forcément bien. Vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes joie. Vous êtes puissance. Vous êtes ce créateur. Et vous sentez que c'est à partir de ce corps de lumière que vous créez un corps émotionnel, un corps mental et un corps physique pour vivre sur la terre. Et ce corps physique, vous sentez qu'il est nourri par ce corps de lumière. Il y a un flot de lumière qui vient du corps de lumière, qui passe à travers votre corps physique et qui le fait vivre, qui lui donne vitalité, santé. Et ce flot de lumière, il vous traverse, il va jusqu'au centre de la Terre et puis remonte. Il remonte jusqu'au corps de lumière en repassant à travers vous. Et quand vous sentez ce double flot lumineux, alors vous pouvez sentir que tout ce qui vous arrive, vous pouvez l'accueillir, l'accepter et le laisser partir. Plus rien ne stagne. Et ça s'appelle vivre connecté à son âme, à son corps de lumière. Et quand vous avez cette connexion, la vie est vraiment différente. Parce que vous entrez dans ce qui va être la nouvelle naissance d'une nouvelle humanité. C'est-à-dire des individus qui ne vivent plus dans la peur, qui ne sont plus en train de faire plaisir à l'un, d'obéir à un tel, d'obéir au ministre, au médecin. Non, tout ce monde-là est un monde qui est en train de s'écrouler. C'est le monde de certains qui dirigent 1% qui dirige 99%. Mais c'est un monde malsain, parce que le 99% souffre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une toute petite poignée de gens qui ont récupéré tout l'argent du monde. Ils sont multimilliardaires et ils donnent leurs ordres. Vaccinez-vous, achetez des médicaments, mais ils sont très toxiques. Et mais le rôle positif, c'est que les gens prennent conscience de « est-ce que je veux continuer à vivre comme ça ? Est-ce que vraiment je veux continuer à me mettre des masques et que mes enfants soient masqués dès 6 ans pendant les 50 ans qui viennent, avec des vaccins tous les 3 mois ? Est-ce que vraiment c'est ça, vivre ? » Et ça oblige les gens à se réveiller et à sortir de ce cauchemar de la peur qui fait qu'on obéit à quelqu'un d'autre. Ah, je fais ce qu'on m'a dit parce que c'est... ils l'ont dit à la télévision, alors je le fais. Non, la clé, vous lâchez votre peur, vous vous reliez à votre corps de lumière, et là, vous devenez un être autonome. C'est-à-dire que vous êtes guidé par vous-même. Et ça, ça change tout. Parce que quand vous êtes guidé par vous, et là, vous avez la liberté totale. Vous savez, vous ne savez pas ce que vous ferez demain, mais vous savez que votre corps de lumière, il va vous inspirer, il va vous donner à la fois la vie, c'est ce qu'il fait déjà, mais il va vous guider sur le chemin du bonheur, de la santé, de la joie de vivre et de vous épanouir. Mais il vous guide d'une manière qui n'est pas « oui, ben pour que je sois heureux, je prends tout, puis les autres, je m'en fiche ». Non, parce que notre bonheur, c'est aussi que les autres soient heureux autour de nous. N'est-ce pas ? Être heureux en amassant des richesses, comme font M. Bill Gates et quelques autres, là, ils sont multimilliardaires, ils ont tout, mais ils n'ont rien, parce qu'ils sont dans une solitude horrible. Parce qu'ils sont entourés de gens qui ne peuvent pas les aimer. Ils sont dans un système faux. Alors que la joie et le bonheur, c'est je fais ce qui est bon pour moi et ce qui est bon aussi pour ma famille, ce qui est bon pour le peuple animal, ce qui est bon pour l'humanité et ce qui est bon pour tous les êtres vivants. Là, j'entre dans une dynamique. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Et là, la vie, enchantée.
C'est vrai. Il y a un point important que tu as soulevé tout à l'heure et que tu rebondis dessus, Tal, c'est aussi le fait de prendre en fait en main sa vie, c'est-à-dire sa responsabilité en fait, c'est notre responsabilité à chacun de faire cela, parce qu'on veut tellement nous prendre par la main, la société veut effectivement aussi, comme tu dis, nous embourber, nous faire croire des choses, et le fait de se dire, non, qu'est-ce que je fais? Je me rends un peu plus responsable. Je pense que ce mot responsabilité, il a son sens. Qu'est-ce que tu en penses, Tal?
C'est le mot clé. Responsabilité, autonomie, indépendance et souveraineté. La souveraineté, c'est que je suis un être divin, je suis relié à mon corps de lumière et je suis un roi. Donc, je ne vais pas être un esclave. Mais je vais devoir respecter que les autres aussi sont des rois. Si je suis un roi qui va imposer sa royauté en écrasant les autres, je deviens un roi despotique. Non, je suis royal, mais quand je vais chez quelqu'un, par exemple, si je vais dans une mosquée, je ne vais pas dire, moi, je vais prêcher Jésus-Christ. Non, quand j'entre dans la mosquée, j'enlève mes chaussures et je vénère Allah. Donc, je deviens, et c'est ça la nouvelle humanité qui est en train de naître, c'est des êtres souverains, responsables, conscients et qui respectent les autres et qui vont tenir compte de où ils sont. Dans une église, ils ne vont pas crier Allah.
C'est sûr.
Mais dans une mosquée, ils ne vont pas appeler Jésus. Donc, ils vont pouvoir jouer. Pour moi, celui qui a inauguré cette nouvelle phase de l'humanité, c'est l'ancien président John Fitzgerald Kennedy. Oui. Il a dit une phrase extraordinaire. Il est allé à Berlin, peu de temps avant qu'il soit assassiné. Il était à Berlin, il a dit « Ich bin ein Berliner ». Ah, quelle phrase. S'il est à Berlin, il est berlinois. C'est ce que je dis. Si je suis avec des végétariens, je suis végétarien. Mais je ne veux pas être classé végétarien toute l'année. Si je suis avec des gens qui mangent de la viande, je ne dis pas que je suis végétarien. Je ne dis pas que je vais manger tout le steak. Je vais peut-être le donner au chien discrètement. Mais je ne veux pas être classifié. Parce que dès qu'on est dans une catégorie, on entre en lutte contre d'autres. Vous voyez le problème?
Et c'est surtout qu'on est en séparation avec nous-mêmes. Oui. Parce que ça, c'est de mettre une étiquette qui n'est pas neutre. Oui, et ça nous empêche d'être nous-mêmes, en fait.
Victor Hugo avait dit ça c'est un grand personnage. Il a dit, l'avantage, quand on avance en âge, c'est qu'on peut avoir tous les âges. Magnifique. Mmh. Et lui avait ça. Quand il était avec ses petits-enfants, il se mettait à quatre pattes et jouait avec eux comme un gosse de 4 ans. Quand il était avec des ados, l'idée c'est ça, c'est d'être bien avec tous les personnages qu'on rencontre dans la société, on peut être bien avec eux. Il ne faut pas entrer en conflit. On peut être homme avec les hommes, femme avec les femmes, enfant avec les enfants, juif avec les juifs, arabe avec les arabes. Donc, on entre dans une vision dynamique, d'unité dans la diversité. Et c'est ça qui est la merveille d'être humain, c'est qu'on peut apprécier tous différents et qu'on ne va plus dire « Ah non, tu n'es pas comme moi, alors je te casse la figure. Ah, tu ne veux pas être comme moi, allez, tiens, esclavage. » Non, on va apprécier nos différences. C'est ça. Alors, maintenant, on vit un moment un peu difficile, c'est un peu comme un accouchement. C'est qu'on est en train de perdre ce qu'on avait, on dit « Oh mon Dieu, je ne peux plus faire ce que je voulais. » Mais c'est un passage pour créer une nouvelle humanité où chacun va faire ce qu'il veut à l'intérieur et ne va plus obéir à personne. Nouvelle économie, nouvelle façon de vivre. Et ce qui est beau, je trouve, là-dedans, c'est que les gens qui font ça, ils ne sont plus corrompus. Parce que quand on fait quelque chose, oui, je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même, on est dans la corruption. On est dans ce système diabolique où les gens ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils font parce que, vous comprenez, je suis à l'OMS, alors si je veux avoir mon salaire, il faut que je répète que les vaccins, ça fait du bien, je ne peux pas dire le contraire, alors je sais que ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous voulez, autrement, je n'ai pas de salaire. Tu sais, l'OMS. Parce que je les connais, moi, ça fait 50 ans que je vais à l'OMS, puisque j'habitais Genève pendant longtemps comme médecin. Et à l'OMS, j'ai vu toutes ces études que j'ai mises dans mes livres, comme celui-ci, Vaccins, génocide planétaire. Mais j'ai vu ces milliers d'études qui montrent que les vaccins sont toxiques, inefficaces et qui tuent beaucoup de gens. Ah. Et quand je voyais ces études à l'OMS, je disais aux médecins qui les ont fait, mais il faut publier ça, c'est bouleversant. Il y a une épidémie de Ebola, c'est les vaccinés qui meurent. Non, mais où c'est? Et chaque fois, les médecins me disent, mais on ne peut pas publier ça, docteur Chalet. Si on publie ça, l'OMS s'effondre. Parce que l'OMS doit donner des comptes à ceux qui donnent de l'argent. Et avant, c'était les compagnies pharmaceutiques, maintenant, c'est Bill Gates. Donc, on doit vendre. L'OMS n'est pas l'organisation de la santé, c'est l'organisation mondiale de la vente de vaccins et de médicaments chimiques. C'est ça le drame. Alors, toutes ces études qui existent, moi, je les ai mises dans mes livres, je mets ça sur mes blogs, elles existent. Et je dis aux gens, surtout ne me croyez pas sur parole. Parce que je ne veux pas être un gourou qui vous dit, voilà ce que vous devez faire. Vaccinez vos enfants, ne vaccinez. Non, mon rôle, c'est d'informer. C'est de vous dire, avant de faire quelque chose, que ce soit un vaccin ou un médicament, informez-vous. Puis quand vous aurez l'information, vous verrez, il y a des gens qui vous disent, ah, le paracétamol, c'est génial. Et d'autres qui vous diront, le paracétamol, une personne sur 20 va finir avec des maladies graves. Ah bon, vous aurez une information. Quand vous aurez ces deux informations, vous choisirez, vous, ce qui vous semble vrai. Parce que le futur, c'est que chacun apprenne à choisir en fonction de lui et plus en fonction d'obéir à quelqu'un. « Oh, je fais ça parce que le docteur m'a dit qu'il fallait le faire et c'est mieux que moi. » Non, aucun médecin sait mieux que vous ce que vous avez à faire dans votre vie. Ah, vous voyez, je vous donne un exemple. Bernie Siegel, qui est un chirurgien américain, il écrit un très beau livre là-dessus sur le... Je ne me rappelle plus du titre, mais il était chirurgien. Alors, il opérait des gens et au bout d'un moment, il a dit aux gens, vous voyez, quand vous avez tel cancer, eh bien, à peu près, disons, 80 ou 90% des gens avec cette forme de cancer vont mourir dans les 6 mois ou les 2 ans qui viennent. Mais il y a des gens, 10, 15, 20% que j'appelle les patients exceptionnels et qui, eux, guérissent. Et alors, il disait à ses patients, dans quel groupe est-ce que vous voulez être? C'était un choix. Les gens qui disaient, ouf, j'y crois pas, ben... Et ceux qui disaient « Oui, je vais dans le groupe des patients exceptionnels », ils leur disaient « Comment ils ont fait ?» Et ils leur donnaient, parce que les gens qui guérissent ont tous fait une démarche globale. Des problèmes physiques, lâcher leurs émotions, c'est toujours la même chose. Quand les gens font ça, ils guérissent. Et Bernie Siegel, avec son lot des patients exceptionnels, il était honnête. Il ne disait pas « Je peux guérir tout le monde ». Il disait « Je peux vous dire comment ceux qui guérissent ont fait ». Et voilà les autres. Et moi, c'est ce que je fais depuis un demi-siècle. C'est de donner aux gens les outils pour avancer vers la conscience, la guérison, le bien-être. Mais ces outils sont des choses simples et pas des choses qu'on doit acheter comme un médicament ou un vaccin. Alors, il peut y avoir l'aromathérapie, ça coûte aussi, mais c'est, les prix n'ont rien à voir. Quand vous prenez de l'homéopathie, de l'aromathérapie, des choses naturelles, c'est infiniment moins cher. Et c'est bien le problème qu'il y a eu. C'est que le monde de la chimie et des vaccins, ils ont gagné tellement d'argent depuis 100 ans, des sommes faramineuses, des milliards et des milliards de dollars, qu'ils contrôlent toute la société. Ils contrôlent les médias, les politiciens, tout le monde leur obéit. N'est-ce pas? Tout le monde, au nom de l'argent, est obligé d'obéir à ceux qui sont au-dessus. Mais ce monde-là doit tourner, basculer.
Parce que de toute façon, ce Covid nous a amené justement à faire cette
bascule. Et c'est pour ça qu'on peut dire merci Covid. Grâce, parce que le bon côté du Covid, il y en a deux. Un, c'est que c'est une affaire planétaire. Ce n'est plus un pays ou un autre, c'est plus bon. Ça a touché toute la planète. Donc, la prise de conscience que nous sommes tous ensemble sur le même vaisseau spatial, grâce au Covid, elle se fait beaucoup mieux qu'avant. On se rend compte qu'on ne peut pas dire « Ah non, moi je me sens, et puis tant pis pour les jaunes, ou tant pis pour les noirs. » Non, on est sur le même bateau. Donc, on doit apprendre tous ensemble à vivre sur ce bateau. Et ça, c'est magnifique. Mais en même temps, il y a des règles à comprendre. Parce que le drame qu'on a eu, c'est qu'on a très mal vécu ces dernières années. On a mangé trop d'animaux, c'est une catastrophe. On a pollué les mers, etc. Enfin, on a vécu d'une manière complètement idiote. Quand vous pensez que, il n'y a pas longtemps, je disais ça, qu'un jeans, pour arriver dans votre magasin, il a fait 95 000 km. Parce qu'on prend la toile d'un pays, on l'envoie dans un autre pays pour la peindre, on le coud dans un autre pays. 95 000 km pour un jeans. Non, mais ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que les choses sont en train de bouger, les gens sont en train de se réveiller à pouvoir faire autre chose, s'ouvrir à une autre réalité. Voilà. Je vous prie juste de m'excuser une toute petite seconde parce qu'il faut que je réponde à Thierry Casasnovas, juste un instant.
Oui, oui. Thierry, es-tu ?
Allô ? Allô, allô ?
Justement, alors, on avait un auditeur qui demandait des nouvelles de Thierry.
Alors, juste...
Voilà, donc tu vois, on ne peut pas faire mieux que direct.
Il doit arriver chez moi. Alors, j'ai gardé le téléphone ouvert parce que je ne sais pas à quelle heure il va arriver. Il vient de Paris.
Est-ce qu'il va bien?
Il va bien, il est en pleine forme, tout à fait.
Bon, ben voilà, vous avez votre réponse.
Alors, je me permets juste, excusez-moi.
Mais bien sûr, sans problème. Je t'en prie.
Je vais juste voir. Oui, allô Thierry?
On va prendre, nous, 2 minutes juste pour pouvoir, bien évidemment, vous inviter à continuer cette aventure avec Tal, si vous le souhaitez, si vous avez cette envie-là, de pouvoir vous inscrire à l'atelier que propose Tal sur LGC, donc un atelier exclusif, vous pourrez vous procurer et vous pourrez bien évidemment continuer ce partage et cette co-création ensemble. On va continuer bien évidemment encore sur la Vibra Conférence. Je vous invite vivement aussi à poser vos questions au regard de la thématique pour qu'on puisse, bien évidemment, que Tal puisse répondre à vos questions dans un deuxième temps. Ce sera le deuxième temps de la Vibra-conférence. Voilà, Tal.
Excusez-moi cette petite interruption, mais il va arriver chez moi un peu tard. Il fallait que je voie où il en est. Voilà.
C'est OK. Mais bon, on était justement sur le fait qu'on avait une société qui était un peu... avait du mal à accepter un peu ces changements et qu'il fallait prendre aussi sa souveraineté aussi au-delà de ce qui se passe. Et
oui, oui. Tu voulais dire quelque chose. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont dans l'obéissance à autrui, franchement, il y en a beaucoup qui vont souffrir. Moi, je suis impressionné. Je me vaccine parce que, etc. Oui. Excusez-moi, mais on vous enfile des poisons qui vont faire des dégâts et des ravages. Vous êtes fous, quoi. C'est comme si vous me disiez, oh ben j'ai choisi de me mettre debout au milieu de l'autoroute, et je pense que c'est un bon endroit, je vais pique-niquer au milieu de l'autoroute. Non mais oh, vous êtes fous quoi. Ben, il y a beaucoup de gens malheureusement qui, à cause de la pression, de l'anxiété créée par les médias, eh ben, ils obéissent. Et ils croient que la solution, c'est ça. Mais bon, moi je ne peux pas les empêcher. J'ai mal au cœur quand je vois ça. Franchement, quand je vois tous ces gens qui se font vacciner, je me dis, mais ils ont perdu la tête ou quoi? Ils s'informent. Pourquoi ils ne s'informent pas au moins un peu avant? Ils regardent. Pour donner un exemple, on a montré, moi je montre ça sur mes blogs, mais on voit que dans tous les pays, pratiquement, qui ont vacciné, dès qu'ils vaccinent, allez hop, la courbe de la mortalité monte à toute vitesse. Donc aujourd'hui, ce qui vous tue, ce n'est pas le Covid, c'est les vaccins.
Et ça va s'amplifier. Et c'est nous-mêmes aussi. On s'intoxique aussi nous-mêmes. Oui. Comme on disait, si on n'est pas aligné, si on ne se délivre pas de nos peurs, si à un moment donné, on n'écoute pas notre corps par rapport à ce qu'il a besoin. Tu parles de Thierry Casasnovas, mais effectivement, on a parlé des émotions, on a parlé de tout ça, mais tu parles aussi des 3V avec la nourriture variée, végétale et vivante. Ça aussi, c'est important. Hein, tu vois, j'ai bien retenu. Hein.
Alors, je vais te donner un gag là-dessus. D'accord. J'ai un ami qui s'appelle Kinou, qui est un clown. J'ai travaillé avec lui pendant 15 ans. On a enseigné le rire un peu partout. Et, parce que le rire, c'est génial. Dès qu'on rit, on lâche la peur, la tristesse et tout. Rire, c'est fantastique. Vous riez un instant et toutes vos émotions sortent et la vie devient merveilleuse. Parce que dès qu'on rit, on sécrète des endorphines et de la marijuana.
C'est ça.
On n'a pas besoin de l'acheter, on l'a fait soi-même. Donc le rire, c'est vraiment le médicament du futur. Riez un bon coup et vous verrez, vous allez forcément mieux. Alors, Kinou, il me fait toujours des blagues. L'autre jour, je l'avais au téléphone puis il me dit, « Ah oui, Tal, c'est vrai. Ah, c'est toi l'histoire des 3 V. » Alors, je dis oui. Il me dit, ah, c'est viande, viande, viande. Ah. Non, les 3 V, c'est végétal, vivant, varié. Mais c'est une règle simple parce qu'elle donne aux gens accès à la compréhension que l'alimentation, il faut aller dans une direction. Il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas vous culpabiliser si vous aimez les... Enfin, un peu, mais il faut aller dans la direction végétale, vivant, varié. Et quand vous allez dans cette ligne, vous allez aller de mieux en mieux. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'alimentation... C'est important, mais ce n'est pas tout. Moi, c'est ce que je vois tout le temps. C'est des gens qui me disent au téléphone, « Docteur Chalère, je mange bio, je fais attention, je mange tout cru, etc. Mais je tombe malade, qu'est-ce qui m'arrive ?» Alors, je dis oui. Ah, c'est le côté alimentation. Après, il y a le fait de bouger. C'est évident qu'un corps physique, il a besoin de mouvement. Donc, il faut avoir du sport ou de la danse, quelque chose où on bouge. Ça, c'est le côté physique. Et puis, il faut dormir assez, bien sûr. Il y a des choses de bon sens. Mais après, sur le côté émotionnel, c'est capital que nos émotions puissent sortir du corps. Et ça, c'est vital. Alors, il y a des exercices, on a fait la peur tout à l'heure, il y en a d'autres, mais l'important, c'est de prendre des moments pour lesquels je vais dire, je ne suis plus quelqu'un de sérieux qui contrôle bien, je vais oser être fou. J'ai appelé ça la folie. Ah, je vais tirer la langue, gigoter, je vais m'amuser, je vais retrouver le bonheur que j'avais comme un enfant de 3 ans à être libre émotionnellement. Je peux crier, hurler et c'est bon. Il y a juste un bémol, c'est que si vous êtes dans un appartement qu'il y a des gens qui sont à côté, ne criez pas. Parce que si vous criez, ils auront peur. Alors, vous faites la même chose sans crier. Vous faites « ah, ah, ah !» vous faites vibrer vos cordes vocales, mais sans mettre. C'est vraiment le côté gestion émotionnelle pour libérer nos émotions à travers le corps. Et c'est fondamental. Parce que trop de gens vivent avec ce stress, avec cette colère qu'ils ont à l'intérieur. Alors, ils espèrent qu'ils vont changer le monde dans la guerre, n'est-ce pas, on va faire une révolution. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Libérons nos émotions d'abord. Dansons, chantons, crions un bon coup et ensuite agissons. Mais n'agissons pas avec des charges émotionnelles. Et pour illustrer ça, je peux peut-être vous rappeler une petite anecdote, mais elle est très jolie, c'est celle des empereurs de Chine.
Oui.
L'empereur de Chine, comment est-ce que... Vous savez que la Chine, pendant plusieurs, pas mal de générations, a connu la paix, l'harmonie, c'était un empire extraordinaire. tout marchait très bien. Eh bien, le secret des empereurs de Chine était le suivant. Le jeune empereur, il montait sur son trône, d'accord ? Puis il écoutait les ministres. Alors, il y en a qui disaient, il faut augmenter les impôts, l'autre, il faut les diminuer, il faut faire ci, il faut faire... Ouf, là, le jeune empereur, et quand il avait écouté ses ministres, il ne savait vraiment pas quoi faire. Parce que, il y avait beaucoup de choses contradictoires. Alors, quand il avait écouté les ministres, il disait merci, merci, et il descendait de son trône par un petit escalier pour aller dans la salle des ancêtres. Et la salle des ancêtres, c'était une pièce où seul l'empereur avait le droit d'aller. Et quand il était dans cette salle, il commençait par lâcher ses émotions. Je n'y arriverai jamais, je ne veux pas être empereur. Ah, il lâchait sortir ça comme un enfant. Il laissait sortir sa colère, son désespoir, mais je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et on a tous besoin de pouvoir faire ça à un moment donné. C'est lâcher les... Puis quand il avait bien crié, bien pleuré, bien sorti sa colère, là, il entrait en méditation. Et il disait aux mes ancêtres, vous qui avez fait de la Chine cet empire incroyable qui marche tellement bien, j'ai besoin de votre aide. Donc il se reliait à ses ancêtres et à son corps de lumière. Mmh. Et en même temps, il attendait la réponse. Et il jeûnait. Et quand il avait la réponse du dedans, il remontait sur son trône et il disait, l'empereur de Chine a décidé que. Et c'est avec cette technique que la Chine a pu vivre d'une manière extrêmement harmonieuse pendant plusieurs générations.
Énorme.
Et quand un jeune empereur a dit « Waouh, tout ça, c'est des sottises du passé qui n'a plus fait ça », eh bien, la Chine est en train de décadence. Et pourquoi je raconte ça? Ben parce que nous sommes tous des empereurs de Chine, ou des impératrices.
Tout à fait.
De notre royaume. Alors, nous avons nos personnages intérieurs, ce que nous on appelle les SPPA, qui disent, il y en a un qui dit faut faire ça, moi j'ai envie de jouer, non, faut travailler, bref, on a toutes sortes de voix, et tant qu'on a, on ne sait pas quoi faire, mais la clé, c'est on se relie un moment à l'intérieur, on lâche l'émotion, je ne sais pas quoi faire, je lâche ma peur, je lâche ma colère, et ensuite, je m'aligne, et là, je me relie à mon corps de lumière, et là, je vais avoir une voix intérieure qui me dit ce qu'il faut faire. Je vais le faire, mais je vais être guidé par moi. Je vais être le centre de mon monde. Et je ne serai plus un esclave qui dit « Qu'est-ce que je dois faire, monsieur le docteur, monsieur le professeur, monsieur le président, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que tous les gens qui nous gouvernent, malheureusement, ils ne cherchent pas notre bonheur. Ils cherchent à nous mettre sous domination. Et aujourd'hui, ça se voit. Nous avons à la tête de nos nations et à la tête de Big Pharma, nous avons des génocidaires. Des gens, franchement, incroyablement fous dangereux, qui ont des projets machiavéliques. Ils veulent diminuer la population mondiale. Les chiffres sont là, ils le disent. Ils trouvent qu'il y a trop de gens sur Terre et ils veulent contrôler toute l'humanité. Ils veulent faire des êtres humains du bétail. Grâce au vaccin et à la 5G, ils vont pouvoir contrôler toute l'humanité. C'est leur but. Mais notre chance, c'est qu'on dit stop. Et quand on dit non, et ben là, on change de monde. On refuse de faire quelque chose qui ne correspond pas. Mmh. Et on va faire ce qu'on sent qui est juste dedans. Et là, on va reprendre le contrôle de nos vies. Voilà.
Complètement. Ça m'inspire beaucoup ce que tu dis à travers le fait de lâcher, tu sais, les peurs, la colère et tout ça. Ça me fait beaucoup penser à la communication non violente, tu sais, de Marshall Rosenberg quand il parle de pisser son chacal dans un premier temps où, voilà, on pisse son chacal et puis après on peut mettre ses oreilles girafes parce qu'à partir de là, on peut laisser se connecter à nos besoins. À voir ce qui est en fait.
Alors, moi, j'aime beaucoup Marshall Rosenberg. J'ai d'ailleurs fait plusieurs séminaires avec lui, donc je l'ai bien connu quand il était encore de ce monde. Alors, lui, ce qui est passionnant dans la communication non violente, c'est que normalement, il y a deux phases. Il y a justement la phase de laisser sortir
nos émotions.
Et ensuite, on va s'intéresser aux besoins de l'autre.
C'est ça.
Mais certains de ses élèves n'ont pris que la seconde partie. C'est qu'ils commencent à s'occuper intellectuellement de l'autre, mais ils n'ont pas lâché les émotions. Il manque un peu. C'est ce que j'ai appris des chamans. Tous les chamans dans le monde entier, le propre d'un chaman, c'est qu'il utilise son corps comme outil thérapeutique. Si un chaman voit quelqu'un, par exemple, qui a quelque chose de bloqué, il sent qu'il y a trop de colère à l'intérieur qui ne circule pas, le chaman va peut-être prendre son tambour et il va faire une danse, il va courir autour de la personne en poussant des hurlements, et en criant comme un fou. Danse qui semble complètement idiote. Qu'est-ce que c'est que ceci? Un médecin occidental va dire, mais ce chaman, il a complètement perdu la tête. Qu'est-ce qu'il a gigoté comme ça? Mais ce que fait le chaman, c'est qu'il capte une partie de l'émotion de la personne et il la laisse passer à travers son corps à lui. Et comme lui aussi a des émotions, mais il les vide avec, donc il se fait du bien en faisant du bien aux gens. Et quand il a fait ça pendant un moment, il va dire à la personne, vous vous sentez mieux. Ah oui, c'est vrai, je me sens mieux, je suis plus léger. Alors, danse avec moi. Et les chamans font danser. Nous, on le voit parce que, par exemple, pendant 7 ans, on était un groupe de 12 enseignants de chamanisme et on a fait venir des chamans du monde entier pendant 3 jours pour un grand festival à Trimurti, près de Saint-Tropez. Et bien, le propre, le signe distinctif de tous ces chamans qui venaient de Sibérie, du Mexique, d'Afrique ou de je ne sais pas où, il n'y en a aucun qui restait assis sur sa chaise toute la journée. Aucun. Tous dansaient, criaient, hurlaient. C'était des êtres vivants. Et c'est ce que j'aime dans le chamanisme. Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec Johan, qui a lancé un mouvement vraiment passionnant qui s'appelle le chamanisme sauvage. Qu'est-ce qu'elle a amené à l'idée ? C'est qu'elle a dit, dans beaucoup de chamanisme, il y a des choses bien, mais il y a des traditions qui se sont durcies. C'est devenu, il faut faire le rituel comme ça, etc. Et on vous met, en quelque sorte, un peu comme les religions, dans un cadre qui est un peu rigide. Alors là, John a lancé cette idée du chamanisme sauvage. C'est un chamanisme libéré des traditions. C'est, je lâche mes émotions, je me laisse inspirer, et le rituel que je vais faire va être inspiré du dedans et ne va pas être quelque chose que j'ai appris chez quelqu'un d'autre. Donc, ça donne un chamanisme vivant, et nous avons un côté chaman. Notre côté chaman, c'est notre côté guérisseur. C'est l'envie de faire du bien aux gens et de me faire du bien en même temps. C'est ça le côté passionnant. C'est ça que je trouve génial, cette dynamique, on ne va plus apporter des choses aux gens et puis à la fin de la journée, on est fatigué parce qu'on a tellement donné. Non, j'apporte à l'autre, mais je me l'apporte en même temps. Si je sens la colère, je vais danser, le faire danser et je me fais du bien. Et ça, c'est une dynamique passionnante parce qu'elle n'est plus le thérapeute qui sait tout et qui dit ce que vous devez faire, mais elle est dans une dynamique joyeuse, vivante, où les gens...
Oui, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, Tal, parce que ça me rappelle un peu ce que dit... un cours en miracle que tu as très, je pense que tu dois connaître, sur le fait qu'on est tous information, vibration, énergie, et qu'en fait on a ce pouvoir, alors auto-guérison, voilà, on en parle, mais voilà, cette possibilité d'agir sur notre ADN, d'agir sur nous-mêmes, d'agir sur nos cellules, d'où l'importance que tu mets en évidence ce soir sur le fait de se délivrer de la peur, de pouvoir laisser passer nos émotions, de pouvoir reprendre notre souveraineté, notre responsabilité pour pouvoir agir au mieux avec nos armes à nous qui sont notre énergie, notre vibration et l'information qui arrive, comment on la traite aussi, comment on la fait traverser notre corps.
Alors, c'est le côté passionnant, c'est ce qu'on sait maintenant avec la médecine quantique, il y a d'autres mots, mais c'est que tout, au départ, il y a une information. Mmh. Puis cette information, elle ralentit, elle crée une énergie. Mmh. Cette énergie, au début, elle va passer, c'est de la lumière, elle va ralentir, elle va créer des pensées, c'est le corps mental, ralentir pour créer le corps émotionnel, et le plus lent, c'est le corps physique. Donc, tout est énergie, tout est vibration, mais il faut travailler sur plusieurs plans à la fois. Mmh. Et le drame de beaucoup de gens matérialistes, c'est qu'ils ne s'occupent que de ce corps-là. Mais ce corps-là, il est pas, il n'y a pas que ça. Il est comme l'image sur l'écran du cinéma. Mmh. Mais si je trouve que je n'aime pas l'image sur l'écran et que je vais gribouiller l'écran, ce n'est pas la solution. Il faut que je comprenne que l'image sur l'écran, elle vient du faisceau de lumière qui sont les émotions, les pensées, et qu'à l'origine, il y a le corps de lumière qui crée des pensées, des émotions pour créer la réalité physique. Quand on s'occupe de ça dans sa totalité, alors justement, on entre dans une dynamique beaucoup plus large. Et justement, à propos du corps des miracles, moi, j'ai bien connu un médecin américain formidable qui s'appelle Gerald Jampolsky. Et lui, il a lu le cours des miracles, mais il a tellement bien compris qu'il a fait des livres plus simples. Parce que le cours des miracles, ce n'est pas très facile à lire pour vous.
9000 pages, je crois.
Très, très intelligent. Alors, lui, il a écrit des livres comme « Aimer, c'est se libérer de la peur ». Moi, j'ai publié ses livres en français, qui sont des livres qui sont le cours des miracles intégré par quelqu'un qui en donne la substantifique moelle simplifiée. Et ces livres sont magnifiques. Ça reste des livres extraordinaires. Et Jerry Jampolsky, c'est un homme vraiment extraordinaire dans le sens qu'il a créé, il raconte que dans sa jeunesse, il était juif, il dit dans ma famille, c'était aujourd'hui est horrible, hier était affreux, demain sera encore pire. Donc il était éduqué dans la presse. Il est devenu psychiatre. Puis à un moment donné, il est devenu psychiatre, mais il est devenu alcoolique. Il était vraiment en mauvais état. Et c'est là qu'il est tombé sur le cours des miracles, qui a ouvert sa conscience et c'est devenu un être immédiatement spirituel qui a créé des cercles de guérison des attitudes. Il y a une anecdote de lui que j'aime bien, c'est qu'une fois, il est à l'hôpital psychiatrique et il y a un malade qui hurle dans une pièce. Et on lui dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors lui, il est derrière la porte et puis il est là et puis il dit, je suis Jerry Jampolsky, je suis le psychiatre de garde et j'ai très peur. J'ai peur que si j'ouvre la porte, vous me tapiez dessus ou que ça se passe mal et je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment très, très peur. Il accepte qu'il a peur. Et tout d'un coup, le malade mental se tait et il lui dit, moi aussi j'ai peur. Mmh. Magnifique. Alors il ouvre la porte, il se tombe dans les bras. Mmh. Parce que la clé, c'est de pouvoir reconnaître, accepter l'autre tel qu'il est. Et quand vous acceptez, il a peur, mais aussi vous avez peur, eh bien on est deux, on est ensemble. Alors que tant que vous restez dans la position, c'est lui le fou et vous lui tapez dessus, vous restez dans la dualité. Et Jerzy Jampolsky, c'est vraiment un message magnifique qu'il a apporté d'être avec l'autre. Alors l'idée est simple, c'est que quand vous êtes avec quelqu'un, par exemple, qui a peur, si vous lui dites « oui, bon, bah, arrête d'avoir peur, tout va bien », vous ne l'aidez pas. Mais si vous dites « oh, tu as peur », et vous le rejoignez dans sa peur, « oh mon Dieu, vous êtes avec la même position », puis vous l'imitez dans sa peur, et puis là, quand vous sentez que vous êtes en osmose, là, vous allez faire « ah » pour lâcher la peur. Ah, il se met à respirer, il se met à sourire ou à rire. Parce que vous l'avez rejoint et vous avez libéré son émotion. Et pour moi, ça, c'est la base, le fondement de ce que font les chamans ou les guérisseurs. C'est « je t'aime comme tu es ». Donc, si tu es en colère, je ne dis pas « tu devrais être plus calme ». Non, je te rejoins. « Oui, tu es en colère ». Je vais dans la même vibration. Et quand je suis au même niveau, moi, je lâche. Ah, et l'autre, tout d'un coup, ah, il se sent merveilleusement aimé parce que vous l'avez accepté tel qu'il est. Et puis, vous avez lâché l'émotion qui ne s'est pas lâchée.
Wow. Merci Tal pour cette anecdote qui est très, très parlante. Et ça revient aussi à mettre en évidence l'empathie, la place de l'empathie. On parlait de la communication non violente. On est aussi un peu dedans quand on essaye de rejoindre le besoin aussi de l'autre. Hein. Donc, ce sont des choses qui font sens. Tu parlais aussi on a parlé du cours en miracle. Et je trouvais qu'il avait... le courant miracle avait vraiment sa place dans le discours de ce soir parce que ça rejoint vraiment ce que tu dis sur le fait d'enlever les étiquettes parce que dans le courant miracle, on précise que la séparation appelle l'attaque. Donc, à partir du moment où on se met autre chose que ce qu'on est, et bien ça amène une forme d'attaque qui fait que et bien on peut plus être en osmose, on peut plus être vraiment bien en fait.
Alors c'est pour ça, par exemple, beaucoup de gens, ils se protègent d'une manière extérieure. Par exemple, ils se protègent, ils mettent un tube de lumière blanche autour d'eux ou ils prennent un bouclier de lumière. Donc, ils se protègent contre. Mmh. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne protection, parce que ça manque d'amour. Mmh. Quand quelqu'un est agressif, il ne faut pas vous protéger contre lui. Il faut capter son agressivité et vous la lâcher pour lui. Et quand vous faites ça, la protection, c'est d'accepter l'autre et de faire ce qu'il ne sait pas faire, et de libérer son émotion. Mmh. Et au moment où vous faites ça, bah, le conflit s'arrête.
Bien sûr.
Comme dynamique, oui. Et puis, ce qui est intéressant dans cette dynamique aussi, c'est de comprendre le monde des sous-personnalités psychoactives. C'est ce que mon épouse Jeanne enseigne ça de façon brillante et notre fils Gwenaël, il est extraordinaire avec ça. C'est de comprendre les personnages qui jouent en nous. Parce que nous ne sommes pas un bloc, nous ne sommes pas un bloc de béton, je ne suis pas un personnage. Nous avons en nous de nombreux personnages, un peu comme les pétales d'une fleur. Nous avons l'enfant qui a envie de jouer. Nous avons l'homme ou la femme d'affaires qui a envie de gagner de l'argent. Nous avons le thérapeute qui a envie de faire du bien aux autres en se faisant du bien. Nous avons l'artiste qui a envie de créer. Bon, donc nous sommes constitués d'une multitude de personnages et que le but de notre existence, c'est que tous nos personnages puissent vivre en harmonie les uns avec les autres. Mais s'il y en a un ou deux qui prennent toute la place et qui écrasent tous les autres, ça ne va pas. Et souvent, les personnages que nous ne laissons pas vivre, c'est eux qui vont créer des maladies pour attirer notre attention. Si, par exemple, moi, j'ai connu un homme comme ça, je m'appelle toujours l'histoire, c'est un homme d'affaires, puis il fait un cancer. Puis je lui dis, qu'est-ce que vous ne vous permettez pas de faire depuis tant d'années? Il me dit, j'ai toujours travaillé, il dit, la seule chose que j'aimerais, en fait, je ne me suis jamais donné la permission, j'aimerais peindre. Je lui dis, ben alors allez-y. Il s'est mis avec des toiles, et puis il a peint, et ben en 3 mois, il n'a plus de cancer. Il avait libéré l'énergie qui était bloquée. Donc, souvent, derrière nos maladies, bien sûr qu'il y a l'intoxication du corps physique, c'est ce que les naturopathes ont compris, il y a les émotions bloquées, qu'il faut lâcher, mais il peut y avoir des personnages qu'on ne laisse pas vivre et qui disent « qu'est-ce que tu attends pour me laisser un peu de place ?» Et quand on laisse un personnage prendre un peu d'espace, ben, la maladie s'en va à toute vitesse.
C'est génial. Ça amène les reconversions aussi. Il y a les reconversions qui sont là-dedans. Voilà. Quand on écoute vraiment ce qui est en nous,
oui, peut-être... Ce que le chaman enseigne, c'est la quête de vision. C'est que vous dites, ah, je suis malheureux, je n'aime plus mon travail, je ne sais pas quoi faire. Ben, le chaman va vous dire, tu vas marcher tout seul dans la forêt, sans provision. Et puis, tu vas avancer, heure par heure, jour par jour, en buvant si tu trouves quelque chose, mais tu vas vivre l'instant pour l'instant. Et quand on fait ça, ben, après, ça peut être quelques heures ou quelques jours, mais quand on est dans la nature, ben on va lâcher nos émotions, on va être dans un... Tout d'un coup, on retrouve le fait d'être dans le mouvement de la vie. C'est ce qu'on appelle libérer l'aventurier. Et là, il y a un moment donné, tout d'un coup, le monde s'ouvre, et là, la guidance intérieure revient, et tout d'un coup, on sait ce qu'on a à faire. Et du coup, on va revenir de cette expérience guidée par l'intérieur, libérée, qui nous avait fait vivre une autre vie que celle qui est bonne.
Merci, Tal. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions avant de continuer sur cette vibra, parce qu'on avait déjà beaucoup de monde présent, et je tiens à vous saluer toutes et tous, comme on l'a déjà fait au début de la vibra. Merci pour vos présences, et puis pour tous vos merci, énormément de personnes présentes ce soir. J'ai vu un peu dans le chat, hein, parce que ça passe très très vite, mais que proposes-tu pour les phobies, Tal? Les phobies, alors oui. Un peu plus haut.
C'est plus mort, là. Les phobies, c'est des peurs qui se sont durcies. Alors, on crée un comportement pour fuir la peur. Par exemple, quelqu'un qui a la phobie des microbes, il va passer sa journée à tout nettoyer. Donc, ce sont des peurs. Ou phobie de prendre l'avion. Et moi, je dis, toutes les peurs et toutes les phobies, ce sont des mémoires. Quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, c'est pratiquement, enfin, pas tous les coups, mais presque, il va avoir une mémoire dans laquelle il était dans un avion, dans une autre vie, il s'est écrasé, et du coup, ça, il a la peur de l'avion. Nos peurs sont des mémoires. Moi, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. Je fais ça depuis 50 ans. C'est que je guide les gens en voyage de conscience pour voir ce qu'il y a dans leur passé qui est à l'origine de leur peur. Maintenant, et beaucoup de gens, j'avais encore ça l'autre jour, qu'une personne qui me disait justement, elle me dit, ah, moi, l'avion, je supporte très, très mal, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur en avion. Alors, j'ai fait remonter dans le passé. Qu'est-ce qu'elle a retrouvé? Qu'elle était un jeune homme en 14-18 qui était un pilote de chasse dans l'armée française et qui a été détruit. Donc, il est resté que l'idée que l'avion... Aller dans l'avion, ça veut dire mourir. Alors, on a vu cette scène du pilote qui meurt dans tous ses états. On libère ce personnage en lui faisant lâcher ses émotions, dans la lumière. Et maintenant, cette personne, elle prend l'avion sans problème. Donc, dans nos peurs et nos phobies, il y a des mémoires qu'il faut libérer.
Il y a des techniques. Il y a des techniques, puisque tu vois, ce que j'aime aussi dans le chat, c'est quand les auditeurs s'envoient aussi des messages les uns aux autres. Et l'EFT, proposer l'EFT et tout ce qui est.
Alors, l'EFT, alors moi, c'est des méthodes sensationnelles. L'EFT, c'est une bonne méthode. Il y a des cas où ça suffit. Il y a des cas où il faut faire plus de voyage intérieur, de réveiller. Ouais. Parce qu'il y a des cas où l'EFT peut ne pas suffire. Toutes les méthodes sont complémentaires. Et si par l'EFT, on y arrive, tant mieux. Si ça ne suffit pas, on va aller faire des voyages plus profonds dans les caves de l'inconscient.
Merci Tal, merci beaucoup. Nathalie qui dit, Monsieur Tal, que pensez-vous de la vidéo de Monsieur Kennedy au sujet des vaccins SVP? J'aimerais avoir l'avis d'un professionnel comme vous, Monsieur Tal.
J'ai une immense admiration pour Robert Kennedy, qui est donc le neveu de l'ancien président Kennedy, et qui est un homme extraordinaire. Il a fait notamment un discours à Berlin il y a quelques semaines, extraordinaire. Il a dit, c'est le moment qu'on sorte de cette peur des maladies et qu'on se prenne en main. Il faut reprendre la souveraineté. Et tout ce qu'il dit, franchement, c'est de l'or. Moi, je suis toujours son site. Il dit des choses d'une sagesse exceptionnelle. Et il a tout à fait raison. Les vaccins tuent. C'est lui qui a donné ce chiffre hallucinant. Il dit, les vaccins et les médicaments chimiques pris abusivement, ça tue à peu près 1 million d'Américains chaque année. Et le chiffre est probablement sous-estimé. Donc, en 50 ans, c'est 50 millions d'Américains qui sont morts à cause de Big Pharma. Et ça, c'est des choses qu'il faut réaliser. Big Pharma, c'est des gens qui ne veulent pas votre santé. Ils veulent vous intoxiquer pour vous vendre des médicaments. Parce que quand vous êtes vacciné, vous êtes malade, qu'est-ce que vous prenez? Des médicaments. Donc, c'est le même système. Vaccin, médicaments chimiques, c'est une aberration totale. Et Kennedy l'a parfaitement compris. Et sur son site, il donne vraiment toutes les références. Il fait un travail remarquable. Je suis 100% avec tout ce qu'il dit. Lisez Robert Kennedy. Il y en a d'autres. Moi, je le cite très souvent sur mes blogs. J'ai les blogs de Tal sur mon site. Et très souvent, je prends un petit bout de chez Robert Kennedy parce que c'est un type génial et qui amène des informations de très haut niveau scientifique de qualité.
Merci. Voilà, Nathalie, vous pouvez bien sûr nous faire votre retour. Merci, Tal. Lise qui nous dit, Monsieur Tal, quand on informe sur les dangers du vaccin, on me répond, arrête avec tes conneries. Bip, hein. Moi, j'ai envie de voyager, d'aller au resto, au ciné. Eh bien, ma foi, faites, me dit Lise. Qu'est-ce que je leur dis à ces gens-là?
Alors, je vais vous dire, ce que vous allez découvrir, c'est que les gens qui se vaccinent pour voyager, ils risquent de voyager, mais pas du tout là où vous voudrez aller. Ils risquent de voyager dans l'au-delà. Parce que Montagnier l'a dit il y a 3 ou 4 jours, il a dit, il a dit tous, c'est peut-être un peu exagéré, mais il a dit les gens qui se vaccinent seront morts dans 2 ans.
Pourquoi il a dit ça?
Réfléchissez bien. Vous mettre dans le corps des dizaines de produits chimiques toxiques, des doses d'aluminium ou de mercure hallucinantes, plus toutes sortes de choses que les fabricants de vaccins, ils ont l'impunité totale. Donc, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les vaccins. Alors, nous, on travaille là-dessus. On voit, oui, ils mettent du HIV. Enfin, ils mettent, c'est incroyable. C'est une soupe pas possible. Alors, bien sûr, si vous dites, je vais faire ça pour voyager, vous voyagerez, mais peut-être pas où vous voulez aller. Vous prenez un risque hallucinant. Parce que
c'est un risque. C'est au-delà d'une responsabilité, c'est vraiment un risque.
Quand on vous dit, alors là où l'argument est complètement idiot, c'est on vous dit, ah, mais il faut le faire parce que comme ça, vous allez protéger les autres. Ce n'est pas vrai du tout parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai prouvé ça dans mes derniers blogs, les gens vaccinés sont très contaminants parce qu'ils vont diffuser des protéines spike plein autour d'eux. Donc, à la limite, il faudrait dire aux gens, fuyez les gens vaccinés. On ne peut pas faire ça parce qu'autrement,
bien sûr,
c'est impossible. Mais les gens vaccinés croient se protéger et protéger les autres. Ce n'est pas vrai du tout. C'est des mensonges organisés. C'est des mensonges hallucinants. Alors, pour vous montrer un exemple, il y a un livre que je viens de trouver l'autre jour, qui est un bon exemple, qui s'appelle « Un monde de menteurs ». Écrit par un Français.
D'accord.
Et alors, il dit des choses très simples. Il dit, on vous ment sur les origines des virus H1, VIH, SIDA, Ebola, tout ça. On vous ment sur le Covid. On vous ment sur le confinement et les masques. On vous ment sur les effets des vaccins. On vous ment sur tout. On vous ment sur toute la ligne. Et il le prouve. Et il vous donne des dizaines de sites de référence. Moi, c'est ce que je fais sur mes blogs, qui montrent que ce qu'on dit, quand on dit que les vaccins sont dangereux, toxiques, et que ça ne va pas vous apporter la santé, on ne dit pas quelque chose en l'air. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un complotiste. Non, on vous dit... Ne croyez pas ce que je vous dis, allez voir vous-même.
Mais c'est surtout une invitation à se recentrer sur soi. Moi, c'est vraiment aussi le message que je crois de ta part.
Oui, à nous informer. Et une fois que vous serez informé, vous ferez ce que vous voulez. Mais franchement, il faut quand même vous informer. Parce que là où c'est hallucinant, c'est que bien sûr, si votre information, c'est juste d'ouvrir votre télévision, alors là, vous êtes mal informé. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les médias classiques sont totalement corrompus. C'est un drame, mais c'est comme ça. Donc, tout ce qu'ils disent est fait pour vous vendre des mensonges et que vous obéissiez à la croyance, aux croyances qu'ils vous donnent. Mais l'élément clé, grâce au net, allez vous informer un peu ailleurs et quand vous aurez vu de 3 points de vue, vous choisirez ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que je dis? Mais, alors, d'un autre côté, ça ne veut pas dire que, moi, je ne veux pas dire que tous les vaccinés vont mourir, ce n'est pas vrai, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même prendre un risque colossal. Écoutez, si je vous disais, vous n'aimez pas votre belle-mère, ben mettez donc de l'arsenic dans sa soupe. D'accord? Mais vous me diriez, mais ça c'est de l'assassinat, docteur Chalère. Eh bien, dans les vaccins, il y a bien pire que l'arsenic qu'on mettait dans la soupe des belles-mères avant. Il y a des doses d'aluminium, mais ça fait frémir. Il y a 80 fois ou 60 fois la dose maximum considérée comme supportable par un être humain, par l'OMS. Moi, je n'ai pas inventé ces choses-là. Elles sont, elles existent, mais il faut que les gens donnent la peine d'aller les regarder. Ils n'auront pas ça à la télévision.
C'est toujours une question de responsabilité, en fait. C'est-à-dire qu'avant, voilà, comme tu dis, il y avait cette télé qui nous apporte tout.
Voilà. Informez-vous, mais arrêtez d'obéir à des gens. Alors, le drame, par exemple, à la télé, c'est que tous les gens, pratiquement tous ces gens qui vous parlent, les vaccins, ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle. Ils touchent des millions de l'industrie pharmaceutique et ils sont en illégalité totale. Ils devraient avouer leur conflit d'intérêts. Ils devraient dire, avant de parler, je viens de toucher 150 000 euros, etc. Ils ne le disent jamais. Et on trouve ça normal. Il n'y a que le professeur Perron qui dénonce ça en disant « Les gens doivent dire leur conflit d'intérêts. » Ils ne le font pas. Alors, posez-leur la question. Attendez, avant que vous parliez, combien vous touchez des fabricants de vaccins? Et tous ces gens, ils touchent des fortunes pour vous maintenir dans une illusion que les vaccins vont vous sauver la vie. C'est un monde impressionnant. Mais il faut se réveiller. Voilà.
Il faut se réveiller et surtout peut-être... se réveiller et croire en nos valeurs hautes, c'est-à-dire que parce que c'est ça, ces gens-là qui gagnent tous ces argents, est-ce que, comme tu disais, ils mettent une étiquette, ce sont des personnes qui se mentent à eux-mêmes, qui sont aussi peut-être pris par la peur du manque ou peut-être la mégalomanie ou la manipulation aussi. Comment tu gères ces personnes, voilà,
Je dis, il faut pas leur en vouloir. Il faut comprendre qu'ils sont prisonniers. Une prison mentale de croyances, mais que leur croyance ne s'appuie pas sur les lois de la vie. N'est-ce pas? Il y a 2 sciences. Il y a la science du vivant, qui sont les lois universelles de la vie. Quand je dis végétal, vivant, varié, c'est une loi universelle de l'alimentation, c'est tout.
C'est à fait.
Bon. Mais quand je dis oui, tel médicament va vous faire du bien, là, c'est la science des marchands. Mmh. Le drame, c'est que les marchands, pour vendre, ils mentent depuis un siècle de manière éhontée. Ils vous font croire, ah, vous avez trop de cholestérol, ben allez, on vous donne des statines. Et les statines tuent plein de gens alors que le cholestérol n'a jamais été un danger. Donc, on nous ment constamment en nous faisant croire que notre santé va venir d'un médicament ou d'un vaccin. Ça, c'est la grande illusion. La santé, c'est vous qui devez la faire. Et ça, j'y peux rien, c'est une loi universelle. Votre santé dépend de vous, voilà.
Point. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va ensemble rentrer dans cette, grâce à l'atelier que tu proposes en exclusivité là sur LGC, pouvoir rentrer sur des clés autour de cette santé qui amène une forme de plénitude. Hein. C'est le terme que tu voulais vraiment mettre en évidence. Peut-être nous expliquer un peu cela.
Oui, n'est-ce pas ? Moi, je vois ça comme ça, c'est que la plénitude, c'est quand je donne de la place à tous mes personnages intérieurs pour que chacun puisse vivre. Là, j'entre dans une vie heureuse. Parce que je suis en quelque sorte à la fois tous les comédiens qui sont sur la scène, le metteur en scène et le public. Donc, je m'amuse parce que je ne suis plus coincé dans un rôle. Je vis tout bien. Et je peux pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Je peux être un enfant avec les enfants. Je peux être sérieux avec les gens sérieux. Mais je ne suis plus immobilisé dans un rôle qui s'oppose à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ça que j'appelle la plénitude. C'est d'être heureux tout le temps. Mais d'être bien où qu'on aille. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris à m'adapter au peuple. C'est que si je vais chez un peuple qui marche pieds nus, ben, je vais marcher pieds nus, mais je vais être avec eux. Et quand j'entre dans leur mode de vie, je vais pouvoir comprendre la beauté de ce qu'ils vivent. Ils ne vivent pas les mêmes choses. Ils n'ont peut-être pas d'ordinateur, mais ils ont d'autres. Ils ont un contact avec la nature, un respect des plantes et des arbres, tout ça. J'ai eu la chance, moi, d'aller voir vivre un certain nombre de peuples qui vivent sans conflit, sans maladie. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Les peuples entiers, sur la même planète que nous, ils ne savent pas ce que c'est d'être malade, d'avoir des conflits. Ah ! Et j'ai bien observé comment ils vivaient et j'ai trouvé des principes simples. Ils respectent le peuple animal et quand ils ont une émotion, ils la laissent sortir tout de suite, même s'ils sont en public. Donc, dans ces peuples-là, vous pouvez toujours faire le fou, tout le monde souffre très bien. Personne ne stocke d'émotions. Il n'y a pas de gens qui gardent des émotions et qui disent « oui, je me sens coupable parce que, etc. » ou « j'ai honte ». Non, ça n'existe pas. Ils lâchent leurs émotions comme des enfants. Et du coup, le reste du temps, ils sont bien. Et comme ils ne stockent pas d'émotions, ils ne font jamais de conflits. Mmh. Parce que nos conflits viennent d'émotions qu'on garde. C'est pas si je garde une émotion, je vais avoir un temps de voir, je vais dire bonjour, ça va. Il y a une charge. Et l'autre va la sentir, le conflit démarre. Mais si je lâche. Alors, pour finir sur une note un peu amusante, il y a un seul personnage qui peut avoir des émotions intenses en public sans faire peur.
Ah oui, je sais.
Le clown. Moi, j'ai très 15 ans avec Kinou le clown, avec nos nez rouges et nos costumes, sur la place d'un village, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, et tous les gens trouvaient ça très long, ils applaudissaient, parce que le clown ne fait pas peur, mais c'est ne ça. Fait pas peur son nez rouge.
C'est vrai, c'est mieux. Qui sont ces peuples, nous dit Marie, Joël,
que tu as rencontré ? Oh, j'écris ça dans mes livres, il y en a toutes sortes, c'est des peuples qui vivent dans des îles lointaines, dans des montagnes du Mexique ou de l'Himalaya, ou bref, c'est des peuples hors civilisation. Mais qui n'ont jamais créé des systèmes hiérarchiques. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de loi. Chacun dans ces peuples obéit à sa guidance profonde. Mmh. Et comme ils sont chacun alignés, personne ne donne ordre à quelqu'un d'autre. Jamais quelqu'un qui dit « va faire ci, va pas faire ça ». Il n'y a pas. Et si jamais un enfant dit à sa maman « ma maman, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» La maman lui dit « tu vas dedans, tu te relis à ton corps de lumière et tu auras l'information de qu'est-ce qui va te rendre heureux et faire que les autres le soient aussi ». C'est ça l'éducation. Et on apprend aux enfants à simplement écouter cette voix. Et les gens grandissent et jamais personne n'impose quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Et jamais quelqu'un dit, va faire ci, va pas faire ça. Un exemple qui est amusant. J'étais une fois aux îles Fidji. Puis là, il dit, c'est vrai que chez toi, ceux qui vont couper les arbres sont des bûcherons, ils coupent le bois. Il y en a d'autres qui transportent le bois et d'autres qui construisent la maison. Ah, j'ai dit, oui, c'est comme ça chez nous. Il y a les bûcherons, il y a les transporteurs, les constructeurs. Ils m'ont dit, qu'est-ce que ça doit être ennuyeux. Nous, on va tous dans le bois, on coupe tous les arbres, on transporte tous les... et on construit tous les maisons. Ils sont multiprofessionnels. Ils n'ont pas un métier toute l'année. Ils peuvent tout le temps. Et ça, ça donne... Il y a un joli exemple de ça. C'est nommé Demière. Ouais. Non, attendez, c'est bien son nom. Qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle... Ah non, je crois que je fourche avec son nom. Il écrit un livre avec son nez qui s'appelle « Je ne suis jamais allé à l'école ».
Ok.
C'est un très joli livre. C'était le fils d'un peintre, mais le nom, je ne me rappelle plus. Mais il a écrit, je ne sais jamais, et c'est un type extraordinaire. Il a une cinquantaine d'années. Il n'est jamais allé à l'école, mais il n'a fait que s'amuser tout le temps. Il parle des tas de langues, il est artiste. Il a une vie sensationnelle parce qu'il n'a jamais appris à se limiter, à faire la même chose toute la journée. Parce que l'école, franchement, c'est une école de souffrance incroyable. Obliger un enfant toute la journée à être assis sur sa chaise et à faire des choses qui l'ennuient, quelle catastrophe.
Et puis surtout, apprendre les étiquettes, lui apprendre les étiquettes et à être comme un bon petit soldat, en fait.
C'est tout à fait. Alors moi, quand l'enfant est petit, entre 5 et 10 ans, moi, il y a la récré. À la récré, il chante, il crie un peu, mais après, à 10 ans, à la récré, il reste immobile, il reste dans son coin. Ben, c'est vraiment une école de la souffrance, l'école.
C'est ça, puis après avec les émotions, parce que là, tu parlais des émotions, on peut vivre des émotions très difficiles à l'école. Et on les... Justement, on ne les libère pas. Est-ce comment elles se logent ? Qu'est-ce que ça crée en nous ? En fait, au-delà de la maladie, qu'est-ce que ça peut créer en nous, je dirais, dans la tête, dans le cerveau ?
N'est-ce pas ? Chaque émotion qu'on garde et qu'on ne lâche pas, on l'a vu pour la peur, chaque émotion que je garde, ça va créer un blocage de mon système immunitaire. Donc, au bout d'un moment, mon système immunitaire ne peut plus faire son travail. Une maladie va me dire « Oh, tu vis trop mal. Allez, danse, sans pleure.
» C'est ça. Mais non, mais quand on voit aussi parfois les professeurs qui peuvent avoir, il y avait vraiment des techniques, hein, quand on voit de rabaisser les uns les autres, alors qu'on sait l'importance de valoriser l'enfant pour qu'il puisse être au meilleur de son potentiel. Cette personne qui n'a jamais été à l'école, j'imagine qu'elle a été valorisée dans chaque action qu'elle pouvait faire pour pouvoir apprendre toutes ses langues, pour pouvoir développer son aspect créatif. Alors,
il y a des écoles qui font ça. Moi, je sais que quand ma fille était petite, elle a été 2 ans à Genève à l'école Freinet. Et c'est une école extraordinaire. L'enfant ne fait que ce qu'il a envie de faire. Jamais on l'oblige à faire quelque chose. Il fait ce qu'il a envie. Et quand il a envie d'apprendre... Alors, je donne un exemple. Moi, j'avais une femme de ménage dont le fils avait 8 ans. Il ne parlait presque pas. Il ne savait ni lire ni écrire. Elle aimait, les psychologues ont dit celui-là. Il n'a jamais rien. Il était considéré comme nul, complètement coincé. Bon. On l'a mis dans l'école Freinet. Alors... Au début, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à faire du dessin, des trucs comme ça, il s'est amusé. Puis un jour, il a dit, mais je vois que les autres, ils lisent et ils écrivent, moi, je ne sais pas faire ça. Alors, le professeur lui a dit, mais tu vois, il y a des fiches, tu prends la première, la seconde et tu vas apprendre. Et bien, cet enfant, en quelques semaines, il pouvait lire, parler, écrire, maintenant, il est prof d'informatique. Quand un enfant n'est pas obligé de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il est génial. Il apprend une vitesse folle, il s'amuse. Mais dès qu'on veut l'obliger à faire quelque chose, on dit, t'as 5 ans, donc tu dois lire, c'est l'horreur. Le système actuel, c'est qu'on fabrique des militaires et pas des enfants heureux. On leur dit obéis, et ça, c'est le drame. Obéis aux autres et plus à toi.
D'où l'importance de ton message ce soir et des messages que tu communiques tous les jours, que ce soit dans tes stages de chamanisme, dans les livres que tu as présentés ce soir. C'est vraiment d'ouvrir. Tu parles de cette conscience collective. Elle est aujourd'hui un peu plus, je dirais, beaucoup plus perméable avec ce contexte sanitaire, et bien de continuer ensemble, parce que chaque graine qu'on va chacune et bien plantée va permettre ce beau jardin. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir et bien te laisser cet espace de parole et surtout continuer à inviter ces personnes à être responsables, continuer ces personnes à rentrer dans cette conscience, parce que c'est petit à petit, hein. J'imagine que ce discours, ça fait maintenant des années que tu le mènes, c'est pas une nouveauté, tu n'es pas un nouveau dans le neuvaine, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un pionnier de cette santé. Donc c'est important que on puisse relayer et qu'on puisse ensemble créer cette belle forme pensée, ce bel égrégore.
Alors il y a un point important qu'il faut souligner. C'est qu'il ne faut pas entrer en lutte avec les gens. Parce que si, par exemple, votre sœur ou votre belle-sœur vous dit « je vais me faire vacciner », il ne faut pas dire « ah, quelle horreur !» Non, ça, c'est la guerre. Il faut respecter les gens dans ce qu'ils font. Et il faut leur amener des informations qui vont les aider à ouvrir peu à peu leur conscience, mais délicatement, un peu comme on plante une graine. Mais il ne faut pas obliger l'autre à vous accueillir. Autrement, c'est la guerre. Alors, vous pouvez dire « tiens, oui, est-ce que tu as vu ?» Enfin, vous lui donnez quelques informations qui vont l'aider à avancer peu à peu. Mais quand quelqu'un est au rez-de-chaussée, il ne faut pas lui apporter des informations du 50e étage. Il ne peut rien en faire. Si vous dites à un Français moyen qu'on peut vivre sans viande, il va vous dire, vous êtes fou, quoi. Alors, vous pouvez simplement lui glisser. Tu sais, il y a des gens qui ont remarqué que si on mange moins de viande, ben, ça va mieux. Ah bon ? Et là, vous le guidez pour qu'il s'informe de quelque chose de différent. Mais délicatement, en douceur et pas en conflit. Parce que si vous arrivez chez les gens avec vos idées, j'ai raison, tu as tort, c'est la guerre. Et c'est une guerre inutile. Respectez les gens et acceptez que chacun a des niveaux de conscience différents. Et que quand quelqu'un a un niveau de conscience, il faut le rejoindre. Ah bon, ah, c'est comme ça. Et lui poser des questions. Ah bon, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et peu à peu, vous allez le guider pour qu'il découvre qu'il y a d'autres choses qu'il ne connaît peut-être pas ou qu'il n'a pas. Vous lui dites, est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as... Mais vous l'incitez à une démarche, mais vous ne lui imposez pas vos idées. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Ça, c'est très
bien. Bien sûr, bah, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est toute cette idée de souveraineté et de liberté, en fait. Hein. C'est-à-dire que si je me crois souverain et je mets les autres à mes pieds, on n'y est pas. Donc, on est dans cet équilibre, je dirais.
Tout à fait. Voilà.
Merci, Tal. Alors, si vous avez encore quelques questions à poser, vous avez ce petit temps encore avec Tal pour qu'on puisse échanger, que Tal puisse vous répondre. Donc, nous vous invitons à poser vos questions à Tal. Je sais aussi qu'il y a dans le chat déjà pas mal d'effervescence entre les auditeurs hein, qui s'apportent aussi mutuellement des retours, etc. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Et puis, j'aimerais peut-être qu'on vous invite aussi à suivre donc l'atelier qui va avoir lieu prochainement avec Tal sur LGC, sur le grand changement. Si vous avez ce souhait de nous rejoindre, eh bien, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pourrez partager avec nous ce moment autour de la santé. Et la santé, on l'a bien compris, c'est un grand mot. Hein, avant, l'OMS, la santé, hein, c'était juste... enlever les difficultés, l'absence de maladie. Et puis maintenant, on sait que la santé, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus. Tu parlais des différents corps, tu parlais de tout ce que... Tu nous as dit énormément de choses. Mais si tu avais, je ne sais pas, un dernier mot à nous apporter autour de cette santé, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Oui, alors, ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est ce que j'ai mis dans ce livre.
D'accord.
Rétablir l'harmonie avec le peuple animal. Je pense qu'une des choses vraiment très importantes qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de prendre conscience que nous sommes sur la même planète que le peuple animal et que tuer des animaux pour les manger, c'est une catastrophe sans nom. Pour eux, pour nous, pour la santé, pour la planète, c'est aberrant. Parce que c'est un gaspillage énergétique qui est complètement hallucinant. Ne serait-ce que parce que chaque fois qu'on mange, on ne se rend pas compte de ça, mais chaque fois qu'on mange des animaux, en fait, à cause de nous, il y a des milliers de gens qui meurent de faim. Vous voyez, je montre un petit schéma qui montre ça. Si je nourris une personne avec un sac de céréales, à partir de viande, je nourris une personne. Avec la même quantité de céréales, si je prends des céréales cuites, je nourris 7 personnes. Et si ces céréales, je les fais germer, et bien avec les graines germées, vous voyez que je peux nourrir plus que 20 personnes. Donc, respecter le peuple animal, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à détruire des millions de cochons, de poulets, etc., qui nous rendent malades, qui nous font absorber. Parce que vous savez, ils vivent dans des conditions tellement épouvantables qu'on est obligé de les bourrer d'antibiotiques et d'hormones, il faut voir ça. Et quand vous mangez, vous avez non seulement la viande qui ne vous convient pas, mais vous avez des tas de produits chimiques à bracadabran qui sont dedans. Donc tout ça est un monde, et ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ce n'est pas attendre que le monde change, c'est simplement arrêter de manger des choses qui sont... mauvaise pour nous, et je le prouve, par exemple, j'ai un livre qui s'appelle « Viande et lait », où je donne toutes les études scientifiques qui montrent ça, c'est que c'est des aliments dangereux qui détruisent notre santé, notre planète. Alors, voilà des choses simples. Faites germer des graines, mangez des fruits et des légumes plutôt que d'acheter des secs fruits, aller chez McDonald's, et là, vous ferez une démarche. Vous allez vous sentir plus léger, vous allez avancer, et tout se tient. Parce que quand on arrête de manger des animaux, automatiquement, on se sent mieux. Je vous donne un exemple qui va vous faire rire. J'ai connu un amiral de l'armée des Indes. Et alors, les Indiens, ils sont végétariens, ils ne mangent pas de viande. Alors, ces soldats, ils marchaient comme ça, cool. Puis lui, il s'est dit, mais ça ne va pas, ils n'ont pas d'allure à côté des Américains qui sont là. Il a dit, il faut que je change ça. Alors, il a fait venir un capitaine des Marines américains. Il a dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que mes soldats ne soient pas, qu'ils n'aient pas cet air nonchalant d'Indien qui marche. Et le capitaine des Marines, ça n'a eu pas de problème. Vous leur donnez 2 steaks par jour, vous verrez. En 15 jours, ils étaient devenus agressifs. Parce que plus on mange de viande, plus on devient agressif. Il y a un exemple de ça qui est assez extraordinaire, c'est les Indiens d'Amérique du Nord. Vous savez que pendant des siècles, ils mangeaient des végétaux et il n'y avait jamais de guerre. Puis un jour, ils se sont mis à manger les bisons. Et bien, dès qu'ils ont mangé les bisons, ils ont commencé à se faire la guerre entre eux. Donc, c'est des choses simples, mais en changeant votre mode de vie, vous pouvez par des démarches simples comme ça, découvrir ces choses merveilleuses, que quand vous n'êtes plus empoisonné par la toxicité de la viande, du lait, du fromage, etc., vous vous sentez mieux. Puis après, vous allez découvrir le jeûne, jeûne intermittent ou quelque chose. Bref, et vous allez découvrir qu'il y a des tas de choses simples qui vont vous permettre que votre vie soit toujours plus rayonnante et agréable et sans dépenser d'argent par-dessus le marché. Parce que vous faites des économies, les graines de ça fait beaucoup moins cher.
Que la viande, mais complètement, complètement. Merci, Talona. Des questions. Bruno qui nous dit « Les Français ont abandonné en masse leur souveraineté. » Qu'en pense-t-il ?
Alors, heureusement, ce n'est pas tous. Je me méfie beaucoup des sondages. Parce que vous savez que les sondages en France, vous savez par qui ils sont faits aujourd'hui ? Ils sont faits par le fils de Madame Macron. C'est lui qui dirige l'institut de sondage le plus important. Alors, les sondages, attention. Mais la réalité, c'est qu'il y a probablement, on va dire, un tiers de Français qui obéissent. Ils font ce qu'on leur dit. Il y a un tiers de Français qui disent non. Puis, un tiers de Français qui sont un peu entre les deux, qui hésitent. Alors, la chose à comprendre, c'est que dans les temps qui viennent, ceux qui sont opposés à obéir à quelqu'un d'autre, c'est un monde qui grandit chaque jour. Ceux qui veulent obéir, ils ont un très mauvais futur parce que à cause de l'obéissance, franchement, on va avoir des hécatombes. Vous savez qu'avec les vaccins, ça va être dramatique parce que l'obéissance à autrui vous conduit droit vers la tombe. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors, il faut dire aux gens doucement, prenez-vous en main, reprenez les rênes de votre souveraineté et puis peu à peu, c'est ça qui va créer un mouvement. Il n'y a pas besoin qu'on ait la majorité. Vous savez, le monde ne change pas quand il y a 100% de gens qui ont changé. Il suffit qu'il y ait un petit pourcentage de gens qui ont changé. Ça peut être 3, 5, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffre à donner. Mais dès qu'il y a un petit pourcentage de gens qui créent une nouvelle énergie, ça devient contagieux. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que notre futur, c'est la prochaine pandémie, ce n'est pas le Covid, c'est la maladie du bonheur. C'est que les gens heureux qui créent du bonheur dans leur vie, qui choisissent à chaque instant de faire ce qui les rend heureux, eh ben, peu à peu, ils deviennent contagieux. Il y aura chaque jour un peu plus de gens qui vont dire « Waouh, mais il a l'air bien, il a l'air heureux, comment il fait ?» et qui vont imiter ceux qui se prennent en main. Et ça, ça va créer une sorte de pandémie de joie de vivre qui va remplacer les épidémies de peur du passé. Alors, une dynamique. La dynamique, c'est reprenez votre responsabilité, votre souveraineté, apprenez à être heureux à chaque instant, à choisir ce qui est bon pour vous. Et ça, ça va créer une énergie que rien ne pourra arrêter. Vous savez, cette énergie, c'est un peu comme quand le jour se lève. Ben, peu à peu, ça y est, la lumière grandit. Et je suis sûr que dans les temps qui viennent, on ne va pas aller vers l'esclavage des populations. Tout ça, c'est... Non, on va aller vers l'émergence d'une nouvelle conscience. C'est un accouchement. La naissance d'une humanité consciente, où chacun va apprendre à être heureux et à vivre dans l'unité avec tous les autres, dans la diversité. Pas une unité intellectuelle, une vraie unité. Oui, je suis ton frère, je suis le frère des animaux, je suis le frère des peaux rouges et des esquimaux, je suis bien avec tous et j'apprécie les différences, je ne les laisse plus nous opposer, j'apprécie de pouvoir danser avec les malgaches, faire marcher mon ordinateur avec les Américains. Bref, de pouvoir vivre, et c'est ça qu'on va faire. Moi, je dis ça en gag, c'est que j'ai dit, les ismes nous ont fait beaucoup souffrir. Le communisme, le catholicisme, le protestantisme, c'est tous des ismes de guerre. Ismes qui s'opposent. Moi, je dis dans le futur, il n'y en a que deux qui vont sourire, le tourisme et le chamanisme. Parce que ce sont des ismes qui ne s'opposent pas, le tourisme, c'est bon. Et le chamanisme, c'est une dynamique de respecter soi-même et de ne rien imposer aux autres. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé les chamans que j'ai vus dans le monde entier, c'est qu'ils ne veulent pas imposer. Ils vivent heureux et ils donnent aux gens des outils pour vivre heureux. Mais ils ne font pas de religion avec des dogmes, tu dois obéir. Non, ça, ce n'est pas le monde du chamanisme.
Merci, Tal. Oui, ça va. Alors, tu sais, hein, on enchaîne. J'ai toujours une dernière petite question, si tu veux bien. Parce qu'on en a parlé d'émotions, on a parlé de télécorps, et c'est vrai que on s'en rend compte aussi, c'est que notre mental, on laisse tout notre mental, en fait, faire notre mental. Alors que notre mental, il peut être utilisé à bon escient, si je peux me permettre l'expression. Et j'aimerais vraiment que tu nous donnes une piste pour qu'on puisse mettre notre mental au service de ce corps, de nos différents corps, et pour que ce mental ne nous amène pas à créer des maladies, mais que ce mental nous permette de nous rendre plus heureux.
Tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que dans le mental, il y a deux composantes. Il y a le cerveau gauche, qui est l'intellect, masculin, qui est actif, qui fait la guerre, enfin bref, qui pense. Il y a le cerveau droit, qui est féminin, intuitif, etc. Alors la clé, c'est pour que le cerveau droit s'ouvre et qu'on sorte de la tyrannie du cerveau gauche, la clé, c'est libérer nos émotions. Et au moment où on libère nos émotions, qu'on danse, c'est ce que beaucoup de peuples font, quand on a dansé, pleuré, crié, lâché nos émotions, naturellement, le corps se détend. Et quand le corps se détend, le cerveau droit s'ouvre et la conscience s'ouvre. C'est ça qui est merveilleux. Elle s'ouvre à autre chose. Moi, j'ai la chance de vivre. J'ai la chance de vivre avec une femme extraordinaire, Joanne, qui, elle, a une ouverture médiumique incroyable. Elle voit des tas de choses que je n'en vois pas. Elle voit des fées dans le jardin, elle voit des lutins, elle voit des ondines. Et elle a une vision au-delà de la matière. Chez les gens, elle voit des tas de choses, elle voit leur personnage intérieur d'une façon extraordinaire. Et pour moi, c'est merveilleux parce que vivre avec quelqu'un comme ça, ça me montre la réalité de ces mondes magiques. Et je ne peux pas les nier parce que je vois qu'elle les capte. Alors moi, je vois moins qu'elle. Moi, par exemple, je vois les faits seulement quand j'ai jeûné. Si je jeûne 30 jours, je commence à les voir. Mais autrement, non. Mais ce qui est bon, c'est d'apprendre les uns des autres. Et c'est ce que j'ai avec mon fils Gwenaël, par exemple, c'est que je suis épaté, il est jeune, mais il a une capacité de voir chez quelqu'un là où ça coince, les personnages qu'on ne laisse pas vivre, qui est éblouissante. Et quand il me fait une séance de thérapie, je suis émerveillé de ses talents. Donc, nous, dans nos stages, par exemple, on fait souvent des stages à trois. Où il y a Joanne, il y a Gwen et il y a moi. Dans d'autres stages, on a un autre ami qui vient. Mais le but, c'est que les gens voient qu'on peut être des enseignants différents, mais qu'on n'est pas dans l'opposition, on est dans la complémentarité. Et ça, je crois, et que des gens comme toi et des gens comme ton site, etc., c'est cette vision que tous ensemble, on avance vers le fait que ce qui nous réunit tous, c'est qu'on veut tous devenir toujours plus conscients, toujours plus aimants, toujours plus libres, toujours plus rayonnants. Et ça, c'est notre futur.
Waouh! Merci beaucoup, Tal. Alors, on a d'autres questions, bien sûr, mais je vous invite à peut-être à les reposer. Une autre fois, et puis peut-être aussi à venir sur notre atelier qui va permettre de continuer cette Vibra conférence à travers la thématique que nous avons bien évoquée ce soir. On vous invite en tous les cas à nous suivre en cliquant sur le lien. Un grand merci à toi.
Oui. Dans l'atelier, on va pouvoir justement aller beaucoup plus profond sur ces schémas-là. C'est comment est-ce qu'on se mange ces schémas répétitifs et douloureux et qui font qu'on reste à tourner en rond. Et ça, c'est toute une dynamique. Et je vous montrerai comment on peut libérer l'émotion, retourner dans le passé, voir ce qui est bloqué, comment on peut le débloquer. Ça, c'est un travail passionnant.
Ça marche.
Alors, à bientôt pour l'atelier.
À bientôt pour l'atelier. Merci à toutes et à tous. Toujours plus rayonnant, en effet, Nina. On est d'accord avec toi. Encore un grand merci à toi, Tal. On se retrouve bientôt pour l'atelier. Merci à vous tous et belle soirée à vous. À bientôt. Okay.